C'est une joie pour moi d'être parmi vous ce matin et puis de pouvoir partager la parole de Dieu dans ces temps, on dira quand même, assez uniques. Je me posais la question, merci beaucoup Thierry pour cette gentille introduction. C'est aussi un immense privilège de connaître Thierry et Christine. Merci au pasteur ici, Jimmy, et puis toutes les Munza et puis Véronique. Ce matin, j'avais envie de vous partager le titre de mon message. C'est courageux et priant. C'est peut-être pas tellement français, mais des fois on se souvient mieux que c'est pas tellement français. Il y a comme un aspect où je pense que dans la saison qu'on vit, pour certains, il y a une interruption, et puis pour d'autres, il y a une perturbation. Puis en fait, c'est assez intéressant à réfléchir. Pour vous, est-ce que c'est plutôt un temps d'interruption ou bien est-ce que c'est plutôt un temps de perturbation? Parce qu'en fait, la manière qu'on réfléchit à cette saison, la manière comme on le voit, c'est aussi comme ça qu'on va se défendre. C'est comme ça qu'on va trouver des solutions. Si c'est une perturbation, ben voilà, ça se coud un peu. Mais on se dit, ça va revenir mieux, ou ça va revenir comme avant. Et puis si c'est une interruption, eh bien on se dit, il faut qu'on change. Il faut qu'il y ait des choses qui changent. On ne peut pas continuer comme ça. Et je crois que pour nous, c'est important, en tant que peuple de Dieu, de nous poser cette question. Est-ce que, si on le voit comme une perturbation, ben on se dit, vivement qu'on retourne dans le monde d'avant. Et puis pour moi, si c'est une interruption, c'est plutôt de se poser la question, qu'est-ce que Dieu est en train de préparer? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Et qu'est-ce que Dieu veut faire? Quand il y a une interruption, ben, il faut de l'innovation, il faut des nouvelles idées. Quand c'est juste des perturbations, eh ben, On s'adapte, mais on n'a pas forcément le désir d'aller plus loin. Et ce matin, mon message, c'est courageux et priant dans cette saison où je suis convaincu que Dieu est en train de préparer quelque chose qui va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et c'est pour ça que j'aimerais aller dans le livre des Actes. Parce que pour moi, le début du livre des Actes, c'est la naissance de l'Église. Et puis on verra qu'il y a beaucoup de similitudes entre notre saison et puis la saison que les disciples étaient en train de vivre. Déjà rien que quand on va dans Acte 1, au chapitre 1, il y a juste la présentation du livre des Actes, où Luc, il parle, où il dit... Ben, Luc, dans mon premier livre, donc dans les évangiles, il a posé les fondements sur Jésus-Christ. Il a parlé, il a posé le fondement de l'évangile. Donc, il n'y a pas d'autre fondement que Jésus-Christ. Mais ici, dans le livre des Actes, Luc continue à écrire, et puis là, c'est comme quelque chose de nouveau, la multiplication de ce fondement. La multiplication de ce que Jésus veut faire. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont un petit peu dans cette saison. Même là, il est dit, on parle de ce que Jésus a vécu et enseigné. Et puis, dans le livre des Actes, c'est comme si il y a tous les apôtres, tout le travail de l'Église qui représentons, c'est nous aujourd'hui. Et c'est comme si ça passe d'une personne, Jésus-Christ, à une multitude de personnes qui sont les apôtres et nous. C'est comme s'il y a une ouverture qui se dessine et qui est en train de venir. Il y a une présence physique à un endroit, en Israël, avec Jésus. Et tout à coup, il y a une présence de Jésus au travers de chacun de nous. Puis c'est ça qui se passe dans le livre des Actes. Et je crois que c'est la saison dans laquelle on est en train de vivre et de d'entrée. Et je crois qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence. Et si on continue dans ce texte de Actes, il y avait Jésus qui était encore avec ses disciples et il parlait du royaume de Dieu. Il parlait, il ouvrait l'espace pour les disciples. Il leur parlait de ce qui viendrait. C'était assez énorme. Pendant 40 jours, il s'est montré à eux et il leur parlait du royaume de Dieu. Et puis ensuite, il leur a dit, attendez, parce que le Père, il va vous donner une puissance, le Saint-Esprit. Puis les disciples, ils écoutaient. Et puis, au moment où Jésus parlait, tout à coup, les apôtres, ils disent, un petit peu plus loin, « Mais Seigneur, c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël ? C'est maintenant que tu vas régler nos problèmes avec ces Romains, avec toutes ces règles, avec toutes ces normes ?» C'est comme si on est arrivé dans un temps où il y a un peu une attente, il y a une frustration, il y a un peu une humiliation, il y a même des faillites, même de la saison aujourd'hui. En fait, quand les Juifs étaient là, ils étaient oppressés par l'Empire romain. C'est les Romains qui disaient ce qu'ils avaient le droit de faire, pas faire. Ils payaient des impôts, ils étaient oppressés. Puis Jésus, il parlait du royaume de Dieu, puis les disciples, « Ouais, mais Jésus, c'est quand que tu vas nous libérer ?» de ce Covid. C'est quand que tu vas nous libérer de ces Romains. C'est quand que tu vas nous libérer de cette situation où on est dedans. Et j'aime Jésus qui répond, vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide de cela. Lui seul a le pouvoir de le faire. C'est comme si il faut qu'on regarde au bon endroit. On est tellement pris, les disciples étaient tellement pris par l'oppression des Romains que dans leur tête, c'est ça qui tournait. On est tellement pris par ce qu'on est en train de vivre, qui est réel, qui est difficile, que je sous-estime pas du tout. Mais Jésus, il répond aux disciples, ne vous en faites pas. Le Père, il sait, il connaît. Et ce qu'il aimerait simplement faire, c'est regarder vers quelque chose de plus grand. Regarder vers ce que Dieu veut faire. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? Donc, au moment où on disait, oui, mais c'est Romain, oui, mais, Jésus dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Et il viendra sur vous pour être des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Au moment où on essaye de se mettre dans notre contexte et puis qu'on essaye de se battre avec tous les problèmes qu'on a, Jésus nous dit, vous en faites pas, le Père, il sait. Mais, attendez-vous qu'il y ait une puissance qui vienne sur vous pour être des témoins. Des témoins de quoi? Du message de Jésus-Christ. Et je crois que Dieu nous invite vraiment à fixer nos regards au bon endroit. Et d'une manière ou d'une autre, si on voit la situation des disciples, on voit ici la puissance du Saint-Esprit est promise. Et puis un petit peu plus loin, ben, on l'a vécu ces derniers temps où on s'est souvenu de ça. Tout à coup, Jésus, il part au ciel. Déjà que c'est une saison pas facile, parce qu'il y avait l'Empire romain qui nous oppressait. Déjà que tout était ébranlé. Et là, il y a encore Jésus qui part. Puis on doit se mettre dans leur peau. Avant que Jésus passe à la croix, il y avait des milliers de personnes qui suivaient Jésus. C'était la star. C'était l'homme du moment. Puis là, la Bible nous dit quand même qu'ils étaient un petit groupe. Ils ont été affaiblis. Ils ont été mis sous pression. Ce n'était pas facile. Ils ont passé de milliers à 120. C'était une décroissance. Je pense que l'Église, d'une manière ou d'une autre, on vit à des endroits un peu la même chose. C'est un peu flippant. Parce qu'en fait, ça ne va pas dans le sens qu'on aimerait. Nous, on aimerait beaucoup plus. C'est comme les disciples. Alors là, ils perdent encore Jésus, ils ont encore été affaiblis. Et puis, ils étaient ensemble en prière. On voit qu'ils étaient à Jérusalem ensemble et ils étaient tellement affaiblis. Jésus était parti, ils étaient dans cette chambre haute. Moi, je me mets à la place de ses disciples. C'était des pêcheurs à Jérusalem, pas de lac. Seul truc qu'ils savaient faire, c'était le bateau, c'était pas des avocats. Ce n'étaient pas des juristes. Eh bien, ils n'avaient pas de bateau, pas de lac, pas de boulot. Ils avaient passé de milliers à 120. Ils étaient mal barrés. Et puis, des fois, Dieu affaiblit pour manifester sa gloire. Vous savez, Abraham, il n'arrivait même pas à avoir un gamin, un seul. Puis Dieu lui dit, tu seras père d'une multitude. Dieu a comme affaibli cet homme pour faire quoi? Pour que toute ta gloire lui revienne. Même Gédéon, il n'avait déjà pas une armée très impressionnante contre les Amalécites. Puis Dieu lui dit, encore moins, encore moins, encore moins. Puis tu vas à la guerre avec des pots de fleurs et puis peut-être un petit peu des torches. Ce n'est pas logique. Mais je crois que le Seigneur, des fois, il permet à ce qu'on soit affaibli pour être complètement dépendant de lui. Puis si ces temps, vous vivez affaibli, dites-vous, Dieu est en train de faire quelque chose. On n'est pas en train de s'adapter à quelque chose. Moi, je crois que Dieu veut innover quelque chose de nouveau. Il veut faire naître quelque chose de nouveau. Il veut nous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et je crois que le Seigneur, il veut qu'on reste en mouvement. Et si on continue à lire, on voit que ces 120 et puis Pierre, ils sont restés en mouvement. Ils ont tout fait pour rester fonctionnels. Et puis imaginez-vous, dans le petit groupe de 12, il y en a encore un, c'était un traître. Il les a trahis. Dans le petit groupe qu'ils étaient, ils étaient encore même là, affaiblis. Mais ce que j'aime, c'est que Pierre, il dit, écoutez, il faut qu'on remplace. Il faut qu'on garde une équipe qui bosse. On n'a plus de comptable. On ne peut pas continuer sans remplacer cet homme-là. Donc, ce n'est pas parce que c'est dur qu'il faut baisser les bras puis attendre, mais il faut continuer à chercher. Et puis, ce que j'aime, c'est la manière qu'il cherche. Donc, il trouve un petit peu plus loin, au verset 23, il y avait deux hommes qui ont suivi Jésus depuis le début, c'était Matthias et puis Barsabas. Et puis, alors la stratégie pour les choisir, alors ça c'est unique, c'est au bol. Moi, je me suis mis un petit peu à la place de Barsabas. Donc, voilà, soit c'est Matthieu qui devient disciple, soit Barsabas. Bon, choisis droite ou gauche. Ah ben, c'est Matthieu. Ben, c'est pas toi. Mais ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est que Barsabas, dans Acte 15, il était utilisé pour une mission spéciale, pour aller à Antioche. C'est pas parce qu'il n'a pas été choisi d'un leadership qu'il a abandonné de servir Dieu. Ce n'est pas parce que dans cette saison de changement, vous n'avez pas la place que vous voulez, qu'il faut envoyer tout péter. Il faut rester fidèle et continuer à suivre le Seigneur. Parce que Barsabas, dans Acte 15, il a été utilisé pour une mission stratégique pour aller à Antioche. Il faut rester en mouvement. Il faut continuer à garder les équipes. Même si on n'est pas beaucoup, ça ne fait rien. Même si on est affaibli, ça ne fait rien. Parce qu'on verra que quand on continue, c'est assez incroyable. Parce qu'un peu plus loin, on commence à parler de cette visitation de l'Esprit de Dieu sur ces hommes de Dieu. Et tout le monde connaît que quand cet Esprit il est venu sur tout le monde. Puis l'Évangile a commencé à être proclamé. Puis les gens, ils ont commencé à être touchés. Et je crois que le Seigneur, il veut lever un peuple avec un esprit différent. Des gens qui arrivent à voir le monde que Dieu prépare. Les gens qui arrivent à voir le pays promis. Vous vous souvenez des 12 espions? Il y en a 12 qui partent. Ils vont dans le pays promis. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un magnifique pays. Ils voient un magnifique projet. Ils voient un Dieu qui a prévu un pays où coule le lait et le miel. Ils reviennent sur les 12. Il y en a 10. Ils étaient tétanisés. Ils ne voyaient pas comment entrer dans le futur. Ils ne voyaient pas comment aller dans ce que Dieu veut. Ils voulaient retourner en arrière, ils voulaient retourner dans les habitudes, ils voulaient adapter, rester en dehors du pays. Et puis il y en a 2, Josué et Caleb, ils avaient un esprit différent. Et ils ont dit non, ce territoire, il est à notre Seigneur. Si on n'est pas visité par l'Esprit de Dieu, c'est impossible de voir ce que Dieu veut faire. Si on n'est pas envahi par ce que Dieu veut faire, on ne va pas pouvoir entrer dans les projets que Dieu est en train de préparer. Et il faut qu'on ait vraiment cette... Soyons animés de cet autre esprit. Soyons animés de la visite du Saint-Esprit. Dans cette saison particulièrement, soyons désespérés pour cet esprit de Dieu de venir sur nous et de voir d'une manière différente. De voir l'opportunité, de voir le projet de Dieu, de nous voir pas comme des petites sauterelles, mais de nous voir comme des enfants, des fils et des filles du roi. Il y a une confrontation, c'est réel, c'est super dur, mais ça nous pousse à nous tourner entièrement vers l'Éternel. Et si on continue à lire, en tout cas ce qui est sûr, c'est que Pierre, il était envahi par cet esprit de Dieu. Imaginez-vous le mec encore un petit peu plus tôt, on lui posait juste la question, est-ce que toi tu étais avec Jésus? Je ne le connais pas. Puis tout à coup, il est debout devant tout le monde et il dit, c'est vous qui avez crucifié Jésus-Christ. Ah ben, il faut de l'audace, hein. Il faut du courage. Et je crois que dans cette saison, l'Esprit de Dieu veut venir sur nous pour qu'on ait du courage, parce qu'il va nous falloir du courage que de vous regarder l'ADN de l'Église de Jésus-Christ. Eh bien, on va voir un peu plus loin, il fallait du courage. Pierre a dû avoir d'abord du courage pour se lever devant les disciples en disant, il faut qu'on remonte les équipes, faut qu'on remplace Judas, faut qu'on se réveille. Donc déjà à l'interne, puis après c'est pas seulement à l'interne, il s'est levé à l'extérieur et il a proclamé l'Évangile avec puissance et avec force. Et je trouve ça assez incroyable. Et je pense que dans la saison qu'on vit, on doit se battre pour avoir cette audace. Parce que durant ce temps où on était un peu enfermé, eh ben je vais quand même dire que nos habitudes ont changé. Notre audace, elle a baissé. Parce qu'à force d'être à la maison, on se sent bien à la maison, on se sent bien j'ai un petit besoin, je vais sur Amazon, clac, 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 je commande, ça vient, j'ai besoin de manger, just eat, tac, 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 c'est livré à la maison. C'est comme si on est entré dans un truc un peu cool, cool. Mais je crois que le Seigneur, il veut qu'on confronte un peu cet esprit de simplicité où on nous livre tout à la maison, mais qu'on puisse repartir à la conquête dans le pays promis, dans ce que Dieu aimerait qu'on fasse et qu'on se lève comme notre ami Pierre. Qu'on devienne responsable et puis qu'on puisse avoir de l'audace. Qu'on ne soit pas dirigé par la peur, mais qu'on soit dirigé par l'amour. Chaque matin que vous vous levez, levez-vous pas avec la peur au ventre, mais levez-vous avec un amour pour les gens. Et plus vous aurez de l'amour, si c'est ça qui vous fait sortir du lit le matin, ben vous verrez, vous allez faire des choses où vous serez surpris vous-même. Parce que l'amour, ça traverse la peur. L'amour, c'est beaucoup plus audacieux, mais la peur, ça nous tétanise. Et je crois que dans cette saison, c'est ce qu'on a vraiment besoin. Puis imaginez-vous, une fois que Pierre a parlé, ils ont passé de 120 plus 3000. 3120. Vous vous levez le matin, vous êtes une équipe de 120. Ça, c'est quand vous levez le matin. Le soir, vous allez au lit, vous êtes 3120. Ben, je peux vous dire que là, ça cartonne. Et pourtant, ils étaient dans une faiblesse, ils étaient opprimés. Je veux dire, mettez-vous à la place des disciples. Ils n'étaient pas dans une belle position. Ils étaient accusés faussement parce que, soi-disant, ils avaient volé le corps de Jésus. Ils avaient perdu une partie de leur équipe. C'était ces pêcheurs qui se retrouvaient à Jérusalem. Ils n'avaient rien pour réussir. Et puis là, en un jour, ils ont passé de 120 à 3120. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de se préparer. Parce que pour moi, il y a des choses similaires qui vont commencer à se passer un petit peu partout. Et puis là, ce ne sera pas juste le boulot de Pierre d'assumer les 3000 personnes en plus. Les 120, ils ont 25 disciples. Le matin, vous avez zéro disciple. Le matin, vous avez zéro personne à coacher. Vous occupez juste de vous. Puis le soir, vous avez 25 personnes à coacher. Parce qu'ils sont plus 120, ils sont 3120. Et tout à coup, vous devenez leader. Vous êtes appelé à faire des disciples. Pas seulement Pierre, mais chacun de vous, vous passez à 25 disciples. Imaginez-vous. Ce matin, vous levez. Vous dites, c'est qui les personnes que je coach, que j'accompagne? J'ai peut-être lui ou elle. Puis le soir, vous allez au lit. Ah ben là, j'en ai 25. Pierre, il a dit, ben voilà, les 25, c'est pour toi. Les 25, c'est pour toi. Parce que s'il n'y avait pas eu quelque chose de ce genre à ce moment-là, l'Église n'aurait pas continué à grandir. Et je crois qu'il y a comme quelque chose où tout le monde se met en route. Et où il y a une œuvre de Dieu. Et puis, j'aimerais finir avec ça, parce qu'il faut qu'on soit courageux et priant. Parce que ça ne veut pas dire que c'est très simple, mais que c'est l'amour qui nous anime, que c'est ce zèle de ce Saint-Esprit qui nous anime, ça va marcher. Josué et Caleb, ça a marché. Ils sont entrés dans le pays promis avec cet esprit différent. Pierre et Jean, ils ont continué, puis on voit, ils commençaient à avoir des signes, des miracles. C'était incroyable. Si on lit dans le chapitre 4, ceux qui entendaient la parole de Dieu, chapitre 4, beaucoup de ceux qui ont entendu la parole de Dieu deviennent croyants. Ils sont à peu près 5000 personnes. Là, ils n'arrivent même plus à compter tellement il y en a. Donc, c'est en train. Mais alors, attention, tout à coup, il y en a, ils ne sont pas contents. Donc, tout à coup, ils se retrouvent devant les tribunaux. Tout à coup, ils se trouvent confrontés. Et je crois que, dans un sens, on doit se préparer. C'est pour ça que je nous encourage à être audacieux, courageux. mais aussi prions. Prions pour que le Seigneur nous accompagne dans cette saison. Au chapitre 4, verset 13, les membres du tribunal religieux sont très étonnés. Ils voient que Pierre et Jean parlent avec assurance. Et en même temps, ils se rendent compte que ces hommes, simples et sans instruction, ils reconnaissent que Pierre et Jean étaient avec Jésus. Donc, ils étaient impressionnés parce que d'habitude, c'était le pasteur, les leaders, les gens connus qui parlaient. Puis là, tout à coup, c'est des gens de nulle part qui commencent à vivre la puissance de Dieu. Puis c'est quelque chose que Dieu est en train de faire. Mais par contre, après, il les ont menacés. Il a dit, mais on ne va pas pouvoir les arrêter parce que le miracle, il est réel. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on leur dise qu'ils ne parlent plus, qu'ils se taisent, qu'ils ne parlent plus de Jésus. Parce que dans notre société, on n'a pas le droit de parler de Jésus. C'est beaucoup trop dangereux. Puis là, ils répondent, on ne peut pas arrêter complètement de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu ? Vous écoutez-vous ou écoutez Dieu ? En tout cas, nous, nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Et moi, je prie que cet esprit de courage, cet esprit de prière, nous pousse en avant pour ne pas être capable de nous taire de ce que Jésus fait. Et j'aimerais finir mon message en lisant les croyants prient. Et puis écoutez bien. Quand Pierre et Jean sont libérés, ils vont voir leurs amis et ils leur racontent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens ont dit. Donc, ils n'avaient plus le droit de parler de Jésus. Ils entendent cela. Alors, tous se mettent à prier Dieu d'un seul cœur en disant, « Maître, c'est toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Tu as donné ton Esprit Saint à David, notre ancêtre, et ton serviteur. Tu as dit par sa bouche. Les peuples s'agitent. Pourquoi ? Ils font des projets, mais pour rien. » Les rois de la terre se préparent au combat. Ceux qui ont le pouvoir se réunissent contre le Seigneur et contre le roi choisi par lui. C'est bien vrai. Hérode Antipas et Ponce Pilate se sont réunis dans cette ville avec les étrangers et les tribus d'Israël. C'est contre Jésus, ton serviteur, saint que tu as choisi comme Messie. De cette façon, ils ont fait tout ce qu'ils ont décidé d'avance, tout ce que tu as voulu avec puissance. Et maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une totale assurance. Et tends la main pour qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes et extraordinaires par le nom de Jésus, ton serviteur saint. Quand ils ont fini de prier, l'endroit où ils se sont réunis se met à trembler et sont tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Père éternel, on bénit ton nom parce que tu fais quelque chose de nouveau, tu prépares quelque chose de nouveau. Et Seigneur, on a besoin de courage ce matin. Et on aimerait te prier qu'on puisse être équipés, parce que par nos propres forces, eh ben on a peur. Mais au moment où ton esprit vient sur nous, il y a comme Josué et Caleb, on voit le potentiel, on voit le terrain promis, on voit les promesses, on voit ce que tu veux faire. Peut-être aujourd'hui, nous sommes envahis par ce qui est en train de se passer, par les normes, par les machins. Mais Seigneur Jésus, aujourd'hui, tu veux nous faire lever les yeux et regarder à la moisson. Permets-nous de regarder à la moisson. Permets-nous de voir le potentiel, les choses que toi tu veux faire et que tu es en train de faire. Seigneur, si nous nous sommes affaiblis, si nous nous sentons un peu comme ces disciples qui ont perdu Jésus, qui ont perdu leur repère, qui se retrouvent à Jérusalem dans une situation qui n'était pas bonne, ben Seigneur Jésus, montre-nous que c'est dans la faiblesse que tu manifestes ta force. Là où nous avons eu des échecs comme Pierre, tu l'as relevé et tout à coup il était debout. Et Seigneur Jésus, tu as amené ta croissance. Seigneur, c'est ce que je veux prier pour cette communauté. Et j'aimerais te prier que tu nous rendes unis, courageux, ensemble. Que nous puissions prier pour avoir l'assurance que ces apôtres ont eue. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'une visitation. Et Seigneur Jésus, si aujourd'hui on est un peu trop focus sur, comme en ce temps-là, sur les Juifs, sur les Romains, sur tout ce que les Romains imposaient comme oppression sur le peuple juif. Si on est trop pris par toute l'oppression qui est sur nous, ce matin, permets-nous d'être tout à nouveau visités par ce Saint-Esprit pour être des témoins à Genève, en Romandie, en Suisse, jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci.